Chapitre 19. Croiser ta route. La réussite n'est pas toujours une preuve d'épanouissement. Elle est souvent même le bénéfice secondaire d'une souffrance cachée. Boris Cyrulnik.
J'étais arrivé à Paris le 31 décembre en fin d'après-midi. Cette année-là, l'hiver était glacial dans toute la France. Il avait neigé une semaine plus tôt, et à certains endroits, la capitale avait toujours des allures de station de ski.
Paris, 2 ans plus tôt, 31 décembre 2009. J'avais loué une voiture à l'aéroport. Une berline allemande confortable et supposée fiable pour tailler la route dans de bonnes conditions. J'aurais pu prendre un vol jusqu'à Toulouse, mais à cause des fêtes, l'enterrement de mon père avait été repoussé au 2 janvier, et l'idée de passer un réveillon mortuaire avec ma sœur et son mari me révulsait. J'avais donc décidé de rejoindre Auch en voiture, en ne partant que le lendemain soir. En attendant, il me restait 24 heures à tuer. Je n'avais pas fermé l'œil depuis 3 jours, et je comptais noyer mes insomnies dans une très longue nuit. Je rêvais d'une collection de pilules capable d'assommer un régiment. Mais je n'avais pas de médoc sur moi, et dénicher un médecin à 7 heures n'allait pas être facile. Avant tout, je devais trouver un hôtel, car celui dans lequel je descendais habituellement, dans le 6e arrondissement, n'avait plus de chambre disponible. « Nous sommes complets », m'avait annoncé sèchement le réceptionniste. D'ordinaire, même lorsque je passais à l'improviste, les responsables de l'hôtel se débrouillaient pour m'accueillir en grande pompe. Parce que j'étais Jonathan l'Empereur, parce que c'était pour eux un honneur que je choisisse leur établissement, parce qu'ils avaient accroché ma photo dédicacée dans leur petit salon, juste à côté de celle des autres VIP qui avaient séjourné ici. Mais les nouvelles vont vite, et les employés avaient dû être prévenus de ma disgrâce, car personne ne fit le moindre effort pour m'aider dans mes démarches. Je connaissais bien quelques confrères dans l'hôtellerie et la restauration de luxe, mais mon masochisme avait des limites, et j'étais bien décidé à ne pas leur faire cadeau de ma dépouille. Après quelques coups de fil, je trouvai finalement une chambre dans un hôtel modeste, place du Château Rouge, à l'angle du boulevard Barbès et de la rue Poulet. Ma chambre était effectivement modeste, voire spartiate. Surtout, il y faisait un froid de gueux. J'essayais de monter le chauffage, mais ça ne changea pas grand-chose. Il était 17 heures, il faisait déjà nuit. Je m'assis sur le lit et me pris la tête entre les mains. Mon fils me manquait, ma femme me manquait, ma vie me manquait. En une semaine, j'avais tout perdu. Quelques jours plus tôt, je vivais avec ma famille dans un loft à Tribeca, je dirigeais un empire, j'avais une black card et 30 demandes d'interview par semaine. Ce soir, j'avais envie de pleurer, et je m'apprêtais à passer le nouvel an dans la solitude d'une chambre sordide. You'll never walk alone. Une sinistre évidence s'imposa soudain à moi. Je quittai ma chambre pour rejoindre ma voiture. Tout en conduisant, j'entrai une adresse dans le GPS, rue Maxime Gorki à Aulnay-sous-Bois, et me laissai guider par la voix féminine du navigateur. Sur le siège, à côté de moi, s'entassaient les journaux français et américains achetés à l'aéroport. La presse hexagonale, qui m'avait souvent ignoré ces dernières années, s'en donnait cette fois à cœur joie. L'empereur déchu. L'empereur abdique. La chute de l'empereur. C'était le jeu des médias et j'y étais préparé. Il n'empêche, aujourd'hui ces titres étaient dévastateurs et je les prenais en pleine gueule comme autant de coups de poing. Je n'arrivais même pas à me faire croire que j'allais rebondir. À part créer des recettes de cuisine, que savais-je faire? Rien, ou si peu. En perdant Francesca, j'avais perdu la flamme qui me poussait en avant, le déclic qui m'avait fait passer d'un chef étoilé ordinaire au patron de la meilleure table du monde. Il y avait 25 restaurants 3 étoiles en France et près de 80 dans le monde. Mais il n'y en avait qu'un avec une liste d'attente de plus d'un an. C'était chez moi, et je savais que c'était à Francesca que je le devais. Car je ne carburais qu'à ça. l'amour exclusif, la passion, le besoin incessant de la séduire. J'avais rencontré Francesca à 31 ans, mais je la cherchais depuis la cour du lycée. 15 ans à espérer qu'une femme comme elle existe quelque part sur Terre. Une femme belle comme Catherine Zeta-Jones à qui on aurait greffé le cerveau de Simone de Beauvoir. Une femme ayant 10 paires de stilettos dans son dressing, mais capable de vous parler de l'influence de la musique de Haydn sur l'œuvre de Beethoven ou de l'effet du hasard dans la peinture de Pierre Soulages. Lorsque Francesca entrait dans une pièce, elle vampirisait tous les regards. Les femmes voulaient qu'elle devienne leur meilleure amie, les hommes désiraient coucher avec elle, les enfants appréciaient sa gentillesse. C'était mécanique, habituel, inéluctable. Nous avions vécu nos années d'amour dans cette incandescence et cette drôle de répartition des tâches. J'avais la notoriété, elle avait le glamour et le magnétisme. Notre amour avait tenu pendant 10 ans en équilibre sur ce fil. Par l'autoroute, je fus à Aulnay en 20 minutes. Je trouvai une place dans la rue Gorki, non loin de l'immeuble où habitait Christophe Salvert. « C'est Jonathan !» annonçai-je en appuyant sur la sonnette.
« Jonathan qui ?»«
Jonathan l'Empereur, ton cousin !» Salvert était le fils de la sœur de ma mère. On ne s'était jamais vu jusqu'à ce qu'il m'appelle à New York 3 ans plus tôt. En vacances à Big Apple, il s'était fait serrer par les flics après une bagarre dans un bar. Il ne connaissait personne à Manhattan et n'avait plus un radis. Par compassion familiale, j'avais payé sa caution et je l'avais hébergé pendant 15 jours dans une des dépendances du restaurant en attendant que son affaire soit classée. Le type avait joué franc jeu avec moi et ne m'avait pas caché la nature de ses activités en France. Il dealait de la coke. Ça m'avait fait froid dans le dos, mais il m'avait assuré qu'il était clean sur le territoire américain.
« Qu'est-ce que tu fous là ?»
me demanda-t-il en ouvrant la porte. « J'ai besoin que tu me rendes un service, » dis-je en m'imposant dans l'appartement.
« Tu tombes mal, putain ! J'étais rentré pour faire le plein, mais j'allais ressortir. »«
C'est important. »«
Qu'est-ce que tu veux ?»«
Il me faut une arme. »«
Une arme ?
Un flingue. »«
T'as vu écrit armurerie sur la porte ? Où veux-tu que je te trouve un flingue ?
Fais un effort !
Salvert soupira.
C'est le réveillon, bordel ! Les gens font la fête et j'ai une quantité monstrueuse de cam à fourguer. Reviens me voir demain.
Non, il me le faut ce soir.
Ce soir, je peux pas. Je dois livrer un maximum de coke en un minimum de temps.
Souviens-toi que je t'ai aidé lorsque tu étais dans la merde.
Et qui va payer mon manque à gagner ?
Dis-moi combien il te faut.
« Je t'aide si tu m'achètes pour 4 000 euros de dope, et ajoute 3 000 euros pour le flingue. »«
D'accord, » répondis-je imprudemment. « Tu n'as rien contre les dollars, j'imagine. » En quittant New York, j'avais vidé mon coffre-fort et j'avais dans les poches plus de 10 000 dollars en liquide.
« Laisse-moi une heure, » annonça-t-il. « Tu peux m'attendre ici. Repose-toi, tu as une sale gueule. »
Je suivis son conseil et m'écroulai sur son canapé. Sur la table, il y avait une bouteille de cognac entamée. Je m'en servis un grand verre, puis un autre, avant de m'assoupir. Salvert revint peu après 20 heures.
« Je t'ai pris ce que j'ai trouvé, » dit-il en me tendant un revolver chromé à la crosse noire.
Le flingue était compact, mais lourd. Avec 5 cartouches, le barillet était plein.
« C'est un Smith & Wesson modèle 60 de calibre 38 spécial. »
L'information entra par une oreille et sortit par l'autre. Je lui donnai le fric et il me tendit un pochon plastifié fermé par un zip qui contenait 20 doses de cocaïne. J'hésitais à les lui laisser, mais décidai finalement de les emporter en me disant que je les détruirais plus tard.
« Ce sera toujours ça que personne ne consommera, » me justifiai-je.
« Je sais, il m'arrive d'être naïf. » Je mis le flingue et la dope dans la boîte à gants et pris la direction de l'hôtel. Pas la peine d'allumer le GPS pour faire le chemin en sens inverse. La 1, la sortie porte de la chapelle.
Merde !
Je venais de louper bêtement un embranchement. Le cognac m'avait assommé.
Soudain, je n'étais plus très sûr du nom de la rue.
Entre la porte de Clignancourt et la porte de Clichy, je continuai à rouler sur les boulevards des Maréchaux pendant 500 mètres. L'endroit n'était pas engageant. Sous la lumière blafarde des panneaux publicitaires, un groupe de prostituées aguichait le client. Certaines voitures s'arrêtaient brièvement. Les vitres se baissaient, les mecs discutaient le prix de la passe ou de la pipe, puis, selon leur réponse, repartaient avec la fille, ou pas. Le feu devant moi venait de virer au rouge. J'étais bloqué malgré moi devant un abribus. Une fille de l'Est, jupe courte et bottes en cuir, tambourina contre ma vitre en me proposant ses charmes. J'essayai d'abord de l'ignorer, mais elle exécuta une sorte de mini-chorégraphie tendance Moulin Rouge. Ses yeux étaient tristes et vides. Elle me fit de la peine et je décidai de baisser ma vitre pour lui faire néanmoins un compliment sur sa danse. Je sais, je suis naïf. Les deux voitures de police arrivèrent en trombe, 20 mètres derrière moi. En moins de 3 secondes, la rue vibra au rythme des sirènes bleutées. Les flics avaient sorti leurs brassards, résolus à faire du zèle un soir de réveillon, embarquant les filles, vérifiant l'identité des clients. Tandis que je remontais ma vitre, une silhouette féminine ouvrit brusquement ma portière et s'installa sur le siège passager. « Démarrez ou vous allez vous faire coffrer » cria-t-elle dans la confusion. C'était une gamine, une adolescente d'une quinzaine d'années. Une prostituée? À cet âge? « Roulez, putain » cria-t-elle. Dans quel guépier venais-je de me fourrer? Je devais avoir 2 grammes d'alcool dans le sang, j'avais un flingue, un sachet plein de coke dans ma boîte à gants et une fille mineure était assise dans ma voiture. J'allais me retrouver en prison et y rester longtemps. Je n'attendis même pas que le feu passe au vert et tournai au premier croisement.